On est encore dans la merveilleuse étude, la bénissante étude de les chrétiens et les religions. Le Seigneur, il y a du stock dans sa parole, il y en a du stock. Je suis sûr que si Dieu le veut, il pourrait nous faire rester dans ce sujet-là jusqu'à la fin de l'année. Lui, il a toutes les révélations, sauf que je ne suis pas sûr que ce soit exactement cela qu'on va avoir toute l'année. Mais pour le moment, c'est cela, puis il nous parle. Puis il nous parle encore avec des beaux passages aujourd'hui dans cette pensée-là. Comme on a vu la semaine passée, on a parlé d'un antéchrist qui va venir, un faux prophète, un séducteur, un pseudo qui se fait passer pour le Père, pour Dieu sur la terre, puis qui va rassembler le monde, puis le monde va être séduit, puis ils vont embarquer avec lui. On en a parlé, c'est un peu une suite de cette idée-là. Le titre du message aujourd'hui, « Gardez-vous et fuyez les prophètes qui prophétisent d'aller aux autres religions. » Quand on va regarder à travers l'étude, vous allez dire, oui, c'est vrai, il y a plein de passages qui nous mettent en garde. Il n'y a pas juste ce titre-là. Là. Il y a des passages qui nous mettent en garde à faire attention aux prophètes. Parce que ce que j'ai parlé dans les autres semaines, c'est faire attention aux doctrines, aux enseignements. Ce n'est pas nécessairement des prophètes. Ça, c'est des personnes qui expliquent. C'est plus des pasteurs ou des enseignants. C'est des faux docteurs qui vont enseigner des fausses doctrines. Tandis que là, on parle de prophétie. Ça veut dire qu'on parle de personnes connectées, un peu comme Balaam, on en a parlé l'autre jour. Balaam, c'est un prophète de Dieu qui a commencé à vouloir prophétiser des choses qui étaient contre Dieu. Mais ça, là, ce que Dieu veut nous montrer aujourd'hui, on va voir que faites attention aux prophètes qui prophétisent d'aller vers d'autres dieux. Jésus revient bientôt, je vous apprends pas rien, mais si je le répète, c'est pour nous exciter à toujours à garder l'attente. Jésus revient bientôt. Puis quand je sais que Jésus revient bientôt, je sais aussi qu'il y a plein d'affaires qui vont se passer avant qu'il revienne. Puis gardons précieusement la révélation de sa parole. Comme je l'expliquais tantôt, faut pas se laisser voler. Amen. Comment est-ce qu'une personne peut se faire voler les révélations de Dieu et ses bénédictions? Il n'y a pas personne qui va rentrer dans la maison chez vous pour vous voler en vous enlevant vos bénédictions, vos révélations. Ça ne marche pas de même.
C'est le diable, c'est un voleur.
Le diable, c'est un voleur. Et par ruse et par fraude, il va essayer de vous faire croire qu'il y a d'autres choses. Puis que là, tu seras prêt à laisser ce que tu as reçu de Dieu pour aller vers autre chose. Dans l'Apocalypse 3:11, Jésus nous dit, « Je viens bientôt. » « Retiens ce que tu as, afin que personne prenne ta couronne. » Voyez-vous à qui est-ce qu'elle est la responsabilité de garder ce que Dieu nous a révélé? C'est à nous autres mêmes. Ça nous dit « Retiens ce que tu as. » On doit trouver ça lorsque c'est plus précieux de savoir que Jésus c'est le Sauveur, puis qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, puis quand tu as accepté Jésus, tu as été pardonné de tes péchés, puis de donner le Saint-Esprit pour commencer cette nouvelle marche dans le chemin resserré qui mène à la vie, pour garder la communion avec le Seigneur. Là, il te donne plein de révélations. Là, tu t'en vas vers la cité céleste. Puis là, il nous avertit en cours de route. Je viens bientôt, c'est à la veille. Il va venir nous chercher bientôt. Ça peut être pour nous plus vite que d'autres. On peut partir, je peux partir aujourd'hui même. Faut que je sois prête aujourd'hui. Faut que je retienne ce que Jésus m'a donné. Faut pas que j'oublie ça. Faut que je considère que ça, ce que j'ai reçu de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien qui est plus important que ces révélations, comprendre ces mystères. Parce que c'est tout, c'est caché aux yeux du monde, mais c'est révélé à ses disciples, à ses enfants. Jésus, il dit, « J'appelle plus mes serviteurs, j'appelle mes amis parce que je vous ai dit. » On est rentré dans son intimité, et il nous parle particulièrement à chacun de nous, puis là, il nous dit, « Retiens ce que tu as, afin que personne prenne ta couronne. » Faut être sûr que tu arrives au bout puis que tu obtiennes le prix de ta course. Faut pas que tu abandonnes puis que tu te détournes en t'en allant. Nous sommes vers la fin de la période de la grâce. On est à l'an de grâce 2016. On est à la fin. On arrive proche au retour de Jésus. Puis la Bible nous dit, lorsque le maître de la maison se sera levé, puis qu'il aura fermé la porte de la grâce va se fermer un jour, bientôt. Puis c'est ce qui est arrivé, tu vois, dans Matthieu 25 aussi, un autre passage qui parle de cela. Les cinq vierges sages qui étaient prêtes, le maître est revenu, il a ramassé les sages, et la porte fut fermée. Ensuite, les autres ont essayé de rentrer, ils ne pouvaient plus. La porte de grâce va fermer au retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Faut pas manquer notre shot. Il n'y a pas deux passages, il y en a juste un que Jésus passe pour ramasser les prêtres. Les prêtres, ils vont, puis les pas prêtres, ils restent là. C'est carré comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait, puis il nous dit tout le long de veiller à ce qu'on, dans ce verset-là, que personne ne vous vole, que ne vous ravisse le prix de la course. On arrive à la fin de la période de la grâce, puis nous savons que le diable joue ses dernières cartes. Quand il était précipité sur la terre, dans l'Apocalypse, au chapitre 12, ça dit le diable a été pris, au chapitre 13, je crois, il était précipité sur la terre parce qu'il y a une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon ne fut pas trouvé plus fort. Il était vaincu, c'est Michel et ses anges qui ont remporté la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Puis ça dit que le grand accusateur, le diable, Satan, a été précipité du ciel, jeté sur la terre. Tout ça, ça s'est accompli à la victoire de Jésus à la croix. Ça nous le dit. Jésus, juste avant de mourir, dit « Le prince de ce monde va être jeté dehors. » Jeté dehors, pas d'ici, jeté dehors du ciel, mais il est encore ici. Puis il est jeté sur la terre, c'est le seul endroit qui reste. Puis il est animé d'une rage, puis il sait qu'il n'y a plus grand temps pour agir. Fait que ça presse pour finir sa fin. Parce que c'est déjà décrété, son jugement est décrété, puis ça va arriver. Sauf que d'ici à ce temps-là, il joue ses dernières cartes, on arrive à la fin de la période de la grâce, puis il fait tout pour essayer d'enfarger les chrétiens, les faire abandonner, pour ravir ce qu'on disait tantôt, essayer de ravir leur foi, démolir leur foi, les amener à mettre leur foi dans les mauvaises affaires. Puis là, il séduit les... il dit qu'il joue ses dernières cartes pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu. C'est un adversaire de Dieu. C'est sûr qu'il est devenu notre adversaire au moment où on s'est converti. Avant, on n'était pas son adversaire, on était son partner, on était son disciple, on était à son service, on ne le savait même pas. Mais quand on a accepté Jésus-Christ, on est rentré dans le royaume de la lumière. On a changé de camp. Puis là, maintenant, on fait partie de ses ennemis. Mais c'est pas grave, on est dans le camp du plus fort. On est dans le camp du vainqueur. C'est Dieu et le Tout-Puissant. Puis le diable, c'est une créature que son jugement, il s'en vient dans pas long. Puis là, j'ai parlé la semaine passée de la venue d'un faux prophète qui va marcher par la puissance de Satan. Sur cette terre, Satan va accompagner ce gars-là, qui va être un idole humaine, parmi les nations, que tu as dit, toute la terre va être séduite par lui. Ils vont l'adorer, lui, il se proclame Dieu, puis il se fait passer pour Dieu sur la terre, puis l'ensemble des humains vont se tourner vers lui pour lui donner l'honneur, puis la louange, puis les remerciements, puis l'encenser, puis tout ce que vous voulez. Puis que ce gars-là marche par la puissance de Satan. On voit ça dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, on va le relire, 9 et 10 pour le moment. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Le diable est avec. Il marche avec le diable. Il fait des miracles par le diable. Sa séduction, le fait que le monde soit séduit, c'est par la puissance du diable qui attire le monde vers ce personnage-là. Avec toutes sortes de miracles. Il y en a des miracles qui se produisent. Il y en a des actes surnaturels, des apparitions, des pseudo-guérisons, des pseudo-miracles. Pseudo, je vous l'ai expliqué, que ça voulait dire la semaine passée, pseudo. C'est mensonge. C'est qu'ils viennent pas de Dieu. C'est pas Dieu qui les fait. C'est le diable qui les fait dans le but de séduire. Il dit, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges, pseudo, mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Fait que l'ensemble de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont être séduits, puis ils vont s'attacher à cet homme-là, puis c'est une des dernières cartes que le diable fait pour essayer de tromper l'humanité. Là, la question qu'on se pose, parce que le titre du message, c'est « Gardez-vous et fuyez les prophéties, les prophètes qui prophétisent d'aller aux autres religions. » Fait que quelqu'un qui marche par l'esprit de prophétie, c'est quelqu'un qui est inspiré par un esprit, puis qui annonce une parole, puis il dit que ça vient de Dieu. Puis cette parole-là annonce des événements, annonce des choses cachées, annonce des choses à venir. Puis des fois, ça semble vrai, parce qu'il y a de l'air à dire des vraies affaires. Les prophéties, c'est qu'il parle dans, il se dit qu'il parle dans le nom de Dieu. Là, ça nous dit dans ce passage-là que ce gars-là va venir toutes sortes de prodiges, des signes, puis des miracles, des prodiges mensongers. Ça veut dire qu'il n'a pas dit qu'il n'y en avait pas de prodiges. Il a dit que ça vient du mensonge, du pseudo, du faire semblant ou d'imiter, ou de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il se dit de Dieu, mais il ne l'est pas. Pourquoi Dieu, la question qu'on se pose là, pourquoi Dieu permet-il que de fausses prophéties et des miracles mensongers s'accomplissent? Pourquoi Dieu permet que ce gars-là fasse des miracles ou qu'il se passe des miracles dans sa communauté, dans son église, que se passent des affaires surnaturelles? Pourquoi Dieu permet cela, qu'il y ait aussi des prophéties, des visions, puis des rêves, puis le monde y annonce d'aller, mettons, à l'apparition de la Sainte Vierge, puis là, tout le monde va là pour essayer de prier, pour en revoir d'autres, ou des affaires comme ça? Pourquoi qu'il y aura des manifestations spirituelles un peu partout, pour approuver encore plus que leur religion pourrait être la vraie religion? Pourquoi que Dieu permet que ça se produise? Puis même des prophéties qui s'annoncent, puis ont de l'air à s'accomplir, pour essayer d'encourager ce système-là. Si le Seigneur aurait voulu, il aurait dit non. Vous n'en direz pas de prophétie. Il aurait interdit au diable de parler à travers la bouche des gens. Il nous a interdit de faire des prophéties. Personne n'aurait pu être mêlé. Pourquoi Dieu permet que ça se fasse? Parce qu'il voulait qu'on s'appuie sur lui, sur sa parole, pour pas se faire séduire. Voyez-vous, il y a comme une raison. C'est la même chose. Pourquoi que Dieu aurait mis dans le jardin d'Éden l'arbre défendu? C'était un test. Pour voir s'il était pour obéir. Il aurait pu pas l'avoir, cet arbre-là, puis tout arrêter beau tout le temps. Pourquoi Dieu permet que ça arrive, que cet arbre-là se retrouve là, puis il lui dit tout, j'y pas. Il aurait pu juste le planter en dehors du jardin, dans le bois, il l'aurait pas retrouvé. Tu sais? Puis il l'aurait peut-être pas vu de sa vie. Il fallait que ça qu'il soit là, puis en plus, il dit. Il dit, il est là, puis touche-y pas. Ben, pas touche-y pas, mais mange-en pas. Il avait le droit d'y toucher. Le Seigneur, il a expliqué dans plusieurs passages dans sa parole qu'il y a des pièges dans ce monde. Puis qu'il faut rester fidèle à sa parole. Sa parole est révélée, puis sa parole n'a pas changé. La Bible, elle demeure éternellement. Puis Jésus dit, c'est mes paroles qui vont juger le monde à la fin. Il n'est pas venu nous enseigner des affaires, puis nous dire après, « Oh, c'est un joke, je n'étais pas obligé de le mettre en pratique. » Non, s'il dit blanc, mais c'est blanc, Jésus ne ment pas. Le diable va nous faire croire que Dieu a menti. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il a dit à Adam et Ève, c'est pas vrai que j'allais mourir. Dieu vous a dit que j'allais mourir, mais c'est pas vrai que j'allais mourir. Le diable, il a osé dire que Dieu avait menti. Compter des menteries. Le diable, c'est lui qui est menteur. Puis il n'a pas été dire, oh, mais oublie pas, là, Ève, si t'en manges, t'es faite, Dieu te l'a dit. Il n'a pas été avec une affirmation sur qu'est-ce que Dieu a dit. Il est allé avec un, pour semer le doute, des suggestions, mais pour l'amener à désobéir puis dire que Dieu c'est un menteur. Dieu ne ment pas. Si quelqu'un vous dit, oh, mais ça, c'est pas bien grave, ça, dans ce temps-là, c'est un mensonge. Sa parole demeure éternellement et tout ce qui est écrit là va s'accomplir, qu'on y croit ou non. La seule affaire qui peut arriver, c'est qu'on y soit pas dans la suite de l'histoire avec lui, je veux dire. Le Seigneur y a expliqué dans plusieurs passages dans sa parole qu'il y a des pièges dans ce monde. Il faut rester fidèle à ses enseignements. Il faut rester ancré, ça ne changera pas. On peut y croire à 100%. Puis laissez faire plutôt ceux qui vous disent que la Bible, c'est démodé, c'est passé, faut évoluer, faut être in, faut être à jour, puis il faut laisser faire les « il faut ». Restons, moi je vous dis, restons fidèles à ce qui est écrit. Quand on parle qu'il faut rester fidèle à ses enseignements, le Seigneur va aller voir un passage, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais ils sont autant des révélations applicables pour le nouveau. Il faut comprendre l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Deutéronome 12, verset 29 et 30. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, parce que là, il parle au peuple d'Israël. Lorsque tu les auras chassés et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège. Oups, que je viens de vous dire, Dieu nous a averti qu'il y avait des pièges. Il y a des pièges dans notre vie. L'arbre de vie, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le piège. Pour tester, comme on a dit tantôt, Dieu permet les pièges pour nous tester. Il y en a que c'est Dieu qui les a mis là, il y en a d'autres pièges, c'est le diable qui les met là. Il dit, garde-toi de te laisser prendre aux pièges. Ça veut dire, c'est à nous de faire attention de ne pas tomber dans les pièges qui sont là. Je suis sûr que quand vous allez sortir de l'église tantôt, vous allez regarder ce que vous mettez vos pieds. Il y a des flaques de glace, il y a un trottoir, il y a la rue, là, la rue était réparée, c'est pas pire, mais avant, il y avait des trous dans la rue, quand on marche, on fait attention, parce que c'est à nous à faire attention, on peut pas mettre la faute sur les autres, là, si on regarde pas où qu'on marche, on se ramasse dans le fossé. Vrai ou faux? Mais quand tu marches, il faut que tu regardes où tu vas, puis c'est notre responsabilité. Là, il nous dit, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Parce que là, vous allez chasser le monde qu'il y a là, dans la terre promise, puis fais attention pas tomber dans leur piège en les imitant. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il a dit, tout le monde qui sont là sont tombés dans un piège. Puis ils risquent d'être un piège pour toi. Toi, tu arrives là, puis tu vas les chasser de là, tu vas prendre possession de la terre promise, mais eux, si tu essaies de considérer ce qu'ils font, puis tu veux faire comme eux, tu vas tomber dans leur piège dont ils sont eux-mêmes piégés. Il dit en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi, alors écoutez bien de quel piège que Dieu parle, garde-toi de t'informer de leur Dieu, parce que lui, eux autres, le peuple d'Israël, servait le Dieu vivant, l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses. Garde-toi là, prends garde, puis fais attention, puis résiste à un piège. Garde-toi de vouloir t'informer sur leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Or, ça serait intéressant de connaître quel est leur Dieu et de connaître c'est quoi leur culte qu'ils offrent. à leur Dieu. Ça sera enrichissant. Ça sera intéressant. Je veux m'épanouir, je veux comprendre. Je veux y goûter, voir, c'est pas pire, cette religion-là.
Je veux avoir la connaissance.
Je veux avoir cette connaissance qu'eux autres ont. Je veux connaître leur Dieu. Peut-être qu'on peut magasiner et en trouver un autre Dieu. Ça slide, en passant. Pourtant, eux autres servent le vrai Dieu. Il y avait entre leurs mains la révélation du Créateur, du vrai Dieu. Là, ils disent, allez chasser ce monde-là, mais tout ce monde-là, c'est un piège pour vous autres, parce qu'ils ont tous tombé dans le piège de servir des faux dieux avec des fausses cérémonies que je ne leur ai pas dit. Fait qu'ils se sont tous inventés des belles religions, mais ils disent, garde-toi de tomber dans le piège de vouloir t'informer de leur religion, informer de leur Dieu et t'informer de la manière dont ils servent ce Dieu-là. Quand tu commences à t'intéresser à cela, tu tombes dans le piège, tu vas être tenté de faire la même chose qu'eux. C'est ça qu'il lui dit. Il dit, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servent-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Il dit ça, j'ai dû l'enfance à eux autres. Il t'arrête de leur dire, faites attention. Que je vous ai dit au début, prenez garde que personne ne prenne votre couronne. Dieu lui dit au peuple juif, prenez garde de vouloir être au courant de leur Dieu puis de connaître leur manière de le servir. Voyez-vous qu'il y a bien des parallèles là-dedans? Pour nous, chrétiens, engagés, serviteurs de l'Éternel, du vrai Dieu vivant, les autres, c'est tout du mensonge. C'est toutes des gens tombés dans des pièges. Il y a une seule Bible. Donc, ça se peut d'avoir une seule foi. S'il y a plusieurs sujets de foi dans ce monde, c'est parce qu'il y en a qui n'ont ajouté puis n'ont enlevé de ce que Dieu a révélé. Pour nous, Dieu nous demande d'être fidèles et de garder le contenu de la révélation. Il est où? Il est dans la parole de Dieu. C'est là qu'est la base de notre croyance, de notre foi. Dans Deutéronome, le verset 32, il dit, « Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous en retrancherez rien. » Cette idée-là de ne pas ajouter, de ne pas enlever de ce qui est déjà écrit, Dieu nous a dit dans l'Ancien Testament, « Ah, nous autres on dit, ça c'était dans l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau. » Je regrette, Dieu a répété la même chose dans l'Apocalypse, de ne pas rien enlever, de ne pas rien rajouter. Puis dans les enseignements de Paul, c'est la même affaire, de ne pas aller au-delà, d'aller plus loin, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Jean, il a dit, l'apôtre Jean, dans son épître, il dit, si quelqu'un va plus loin puis ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Il y a plein de versets qui en parlent. On n'a pas le droit d'aller plus loin, on n'a pas le droit d'en ajouter. On n'a pas le droit de retrancher rien de ce qui est là. Tout est là. On a tout ce qu'il nous faut pour marcher jusqu'à la fin. Pas besoin de s'informer sur les autres dieux et sur les autres religions. Voyez-vous? Le Seigneur nous a déjà enseigné dans sa parole sur la possibilité que certains prophètes prophétiseraient d'aller vers d'autres dieux. Là, on voit que si c'est une prophétie, c'est quelqu'un d'inspiré par Dieu, par révélation prophétique, puis il dit, allons, montons vers les autres dieux, allons servir. Là, il nous met en garde sur, faites attention, il y a des faux prophètes qui vont essayer de vous prophétiser pour vous séduire et vous emmener à aller vers d'autres dieux. Deutéronome 13, 1. On va aller lire ce que Dieu dit dans sa parole sur cela. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur c'est quelqu'un qui fait des rêves, puis il raconte ses rêves, puis là il dit à tout le monde, c'est la parole de Dieu. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, Fait que là, ce prophète-là, inspiré par lui, dit que c'est l'Esprit de Dieu, mais là, il annonce un signe. Regardez tel signe ou telle prophétie, si, que ça s'accomplit, là, c'est ça qu'il dit. S'il annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige, ça veut dire que son miracle, son signe, s'est accompli. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, pourquoi Dieu permet que les faux prophètes annoncent des choses puis ça l'arrive? Pourquoi Dieu permet ça? Mais là, il est en train de nous dire ce qu'il en est là-dessus. Il dit, si tu vois quelqu'un qui se lève puis il se dit prophète, puis il annonce un signe, puis il y a eu un accomplissement de ce signe-là, ça veut dire que ça s'est accompli. Il y a eu un miracle, là. Et qu'il y a un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Ça veut dire que là, il a mis des signes, le prophète, puis il a dit, il va arriver telle affaire, puis ces choses-là se sont accomplies, puis c'est, allons vers ce Dieu-là, un autre Dieu que le peuple d'Israël. Ça veut dire, il y a du monde assez effronté dans la vie pour aller amener, ils se disent serviteurs de Dieu, puis ils vont t'amener à aller vers d'autres religions. Un peu dans le style écuménique. Ça existait dans ce temps-là. Le verset 3, il dit, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, même s'il y a eu un accomplissement de la prophétie ou du signe, où il y a eu des miracles. » Il dit, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car, regardez bien cette parole qui est écrite là, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Il dit, s'il y a eu un accomplissement, il dit, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve pour voir si on va garder la parole, si on va rester attaché. Dieu permet que ça arrive, des fausses prophéties, puis même des personnes qui vont vouloir nous amener. Les prophéties, par quelqu'un, il va nous amener à d'autres dieux. Puis Dieu, il dit, c'est moi qui permets ça pour tester votre cœur, si vraiment vous allez rester fidèle à ma parole. Dieu considère plus important qu'on reste fidèle à sa parole que de poursuivre des prophéties qui nous amènent vers d'autres enseignements, d'autres dieux. Le verset 4, « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, puis vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, puis vous attacherez à lui, pas aux autres. » Là, il dit, « Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. » Dans ce temps-là, ça niaisait pas. Un faux prophète qui essayait de t'amener à un faux Dieu, mais il était puni de mort. Même s'il y a eu des accomplissements dans ses miracles. Car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Il dit, tu ôteras ainsi le mal qui est au milieu de toi. Mais il dit, il a parlé de rébellion, quand une prophétie s'accomplit, puis ça t'amène à dire, oh, allons vers l'œcuménisme, puis unissons-nous, puis qu'il y a eu des accomplissements. Dieu dit ça, là, c'est toute une tentation que j'ai permis pour dans le but de tester les chrétiens, tester son peuple. Puis là, il nous dit, ce gars-là parle de rébellion contre l'Éternel, puis il dit, il essaye de vous détourner de la voie. Quelle est cette voie que Dieu veut nous garder? C'est le chemin resserré qui mène à la vie. Il essaye de vous détourner, de vous enlever. Ce que je vous dis, prends garde que personne prenne ta couronne. Comment est-ce qu'il va faire? Il va juste te proposer de belles affaires pour te tenter à débarquer pour aller t'attacher à d'autres choses. Dans l'histoire du peuple juif, je vais vous raconter une petite histoire du peuple juif. Il y avait, comme j'ai déjà dit, le peuple juif était séparé en deux groupes. Il y avait Juda et Israël. Juda, sa capitale, était à Jérusalem. Puis Israël, sa capitale, c'était à la Samarie. Puis les deux rois qui régnaient dans l'époque de l'histoire que je vous raconte, c'est Josaphat, qui était le roi de Juda. Puis il y avait Achab, le roi d'Israël. Puis comme qu'on le sait, si on va voir l'histoire d'Achab, c'est un roi qui s'est rebellé contre Dieu, puis il s'est marié avec une femme étrangère, Jézabel, celle qui avait fait installer dans le peuple d'Israël des temples de Baal puis d'Astarté, celle dont Élie est allé confronter les 850 faux prophètes, puis lui était seul comme prophète de l'Éternel dans cette confrontation-là, puis que là, ils ont, je sais pas, je vous en rappelais l'histoire où Élie a offert un sacrifice à Dieu pour pouvoir, puis les faux prophètes ont fait un sacrifice à leur Dieu, puis il a dit, mettez pas le feu au sacrifice, invoquez votre Dieu, puis moi je vais invoquer l'Éternel, puis celui sur qui le feu va descendre, c'est lui qui est l'Éternel. Fait que Dieu n'a pas permis que le diable fasse du feu pour brûler l'offrande des faux prophètes. C'est pas parce que le diable n'était pas capable d'en faire descendre du feu du ciel. Il est capable d'en faire. Il est imitateur. Mais Dieu n'a pas permis, dans le but, dans ce shot-là, que le peuple d'Israël réalise et se repente, puis que là, les prophètes ont été décapités. Mais là, c'est une autre histoire dans le temps du roi Achab. Mais avec à un moment donné, les deux rois, ils étaient ensemble. Ils ont commencé à fraterniser. Ils étaient ensemble, ils étaient contents de se voir, puis de se voisiner. Puis ça avait l'air d'aller bien. Puis au Josaphat, il y a un de ses descendants, son petit-fils, s'est marié avec quelqu'un de la famille d'Achab. Fait qu'ils ont fait des alliances. Puis là, ils étaient ensemble en train de jaser. Puis là, il dit, hey, on va aller se battre contre la Syrie. Le roi Achab, il dit, viens avec moi, on va aller se battre contre le roi de la Syrie. De la Syrie. Puis, eux autres, lui, le roi Josaphat, lui, craignait l'Éternel. Tandis que l'autre, il était dans le monde, comme qu'on dit, là. Dans le péché, dans le monde, puis perdu, mêlé, puis il ne savait pas où il s'en allait spirituellement. Mais il consultait ses prophètes quand même pour savoir s'il était pour remporter la victoire. Le roi Josaphat, il dit, consulte les prophètes là, pour savoir si on va avoir la victoire. Parce que lui, le roi Josaphat, il croyait en Dieu. Il s'était pas rebellé. Fait qu'on va aller lire cette histoire-là. Dans 2 Chroniques, le verset 18 et le verset 9. Ça, c'est dans l'histoire de Josaphat et le roi de Juda qui ont fait alliance ensemble. Josaphat, le roi de Juda, fit alliance avec Achab, roi d'Israël, puis ils s'unirent et ils formèrent le projet d'aller attaquer le roi de la Syrie. Là, ça nous dit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Fait que là, pour lui, à Samarie, c'était le roi Achab. Fait que lui, il avait ses prophètes. Qui était là, puis il prophétisait. Monte dans la guerre, tu vas avoir la victoire, Dieu est avec toi, etc. Là, il y en a un prophète là-dedans, il s'appelait Sédécias, fils de Kénaana. Il s'était fait des cornes de fer, puis il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisait de même et en disant, monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès et l'Éternel livrera entre les mains du roi. Voyez-vous, quand des prophètes prophétisent, oh, ils ont de l'air inspirés, oh, ils nous annoncent que des bonnes affaires, la victoire, on va envoyer ça, tout va aller bien pour ta nouvelle année. Sur Facebook, c'est plein de prophètes. Je confesse que tu vas avoir que du bien devant toi dans cette année. Puis j'ordonne à tout ce qui n'est pas correct de s'enlever devant toi. Des affaires de même. Ça n'a aucun sens. Mais il y en a plusieurs qui sont partis dans cet élan-là. Mais là, ce qui est dans ce fait-là, c'est que c'est un roi qui appartenait, qui servait le Seigneur, uni. Puis ça nous dit ce mot-là qu'il fit alliance. Il dit, Je vais le trouver, mais que je passe. Il dit, il a fait alliance, le roi, là, si je cherche ma feuille, je vais finir par me mêler. Le roi Josaphat, il a fait une alliance avec le roi d'Israël, mais le mot qu'il y a là, pour le mot alliance, qui sont unis ensemble pour décider d'aller combattre, c'est séduction. Ce mot-là veut dire, dans l'hébreu. Là, cette alliance-là, c'est que Josaphat, qui est un roi du Seigneur, puis il sert le Seigneur, il a été séduit pour faire une alliance avec Achab, qui est un roi perdu. Un méchant, quelqu'un qui s'est éloigné, puis avait entraîné le peuple à s'éloigner. Puis lui, il a embarqué là-dedans, je sais pas pourquoi, mais ça l'explique aux chrétiens, dans les commentaires bibliques, faites attention avec les alliances que vous faites. Puis dans le Nouveau Testament, il dit, faites-vous-en pas d'alliance avec les gens du dehors. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière, etc. On continue l'histoire à partir du verset 12, dans 2 Chroniques 18, le verset 12. Là, ce qui est arrivé, là, c'est que le roi Josaphat, il les entendait tous, là, les prophètes de Achab, en train de prophétiser. Monte, tu vas avoir la victoire. Là, tout le monde t'a sollicité au bout. On va l'avoir, la guerre. On va gagner. Là, lui, le Josaphat, il dit, il n'y a pas un autre prophète de l'Éternel ici qu'on pourrait consulter pour y demander. Parce que là, Josaphat, qui est un homme de Dieu, je pense qu'il y a eu un doute. Il y a eu un doute sur l'authenticité des prophéties qu'il est en train d'entendre. Puis c'est correct de douter. C'est correct de douter sur une prophétie. Je dis pas que toutes les prophéties qu'on entend sont pas bonnes, mais si le Saint-Esprit t'a mis un doute en toi, là, exploite ça, ce doute-là. Dieu veut faire, il veut t'allumer peut-être sur une autre idée. Fait que lui, il a dit, il n'y a pas un autre prophète de l'Éternel, c'est qu'on pourrait consulter. Puis là, Achab, il a dit, il y a Miché, mais il me prophétise juste du malheur. Toutes les autres parlant bien pour le roi, là. Imaginez-vous le contexte. Il y a juste un mouton noir de la gang que lui, toujours en train de me dire des affaires que j'aime pas. Il se faisait pas flatter par Miché. Là, au verset 12, les messagers qui étaient allés, ils ont appelé Miché, et il lui parla ainsi. « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme celle de la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Ils sont en train de dire à Miché, toute la gang disent « Vas-y, monte, tu vas l'avoir, ils prophétisent du bien. » Puis là, ils disent à l'autre, répète les mêmes affaires. Dis du bien au roi. Dis-lui ce qu'il veut entendre. Le monde cherche ce qui leur plaît. Mais c'est pas pour rien des fois qu'ils obtiennent ce qu'ils... Verset 13. Miché répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer à Ramoth en Galaal ou dois-je y renoncer? Il répondit, « Montez, vous aurez du succès, puis ils seront livrés entre vos mains. » Là, je pense que Miché, il voulait y faire une joke. Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? » Puis là, Miché, là, il lui a dit, il voulait entendre des belles affaires, il lui en a dit. Mais en réalité, quand il a dit ça, il a dit, Miché répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens qui n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Là, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Là, le contexte, là, c'est que lui, Miché, Dieu, il avait vraiment parlé au point de vue d'Achab, puis ses méchancetés, puis ce qui va y arriver. Parce qu'il est en train d'y annoncer que le peuple d'Israël, ça pourrait être comme des brebis égarées, puis il n'y aura plus de berger sur eux autres. Il venait de lui prophétiser la mort du roi Achab, le roi d'Israël. Qu'il va y aller en guerre, puis il va se faire tuer. Puis là, il y a eu un affrontement entre ce que lui parlait, Miché, en disant, allez-y pas, vous allez perdre la guerre. Puis tous les faux prophètes qui étaient là, qui lui disaient, monte, monte, la chicane a pogné, puis il y en a un qui a frappé Miché, puis après ça, ils l'ont mis en prison dans une place pour le priver de nourriture, juste au pain et à l'eau. C'est pas toujours payant physiquement de dire la vérité. Souvent, c'est pas accepté, puis le monde aime entendre des choses agréables. Ils veulent pas entendre les vraies affaires, parce que les vraies affaires, c'est pas toujours le chemin de la bénédiction qui est devant nous. Puis là, Miché, parce que l'histoire s'arrête pas là, il a même raconté au roi pourquoi que ces prophètes-là prophétisaient de monter. Pourquoi, la question que j'ai posée au début, pourquoi Dieu permet qu'il y ait des prophètes qui prophétisent des mensonges ou des choses pas vraies, puis il va même avoir des accomplissements par des miracles, puis que tout à l'heure j'ai dit un verset qui vous dit, mais c'est parce que Dieu nous met à l'épreuve pour voir si on va garder sa parole. Puis là, le prophète Miché va expliquer pourquoi que cette gang-là ont eu des prophéties mensongères. 2 Chroniques 18, le verset 18 jusqu'à 22. Miché va lui révéler qu'il y a un esprit de mensonge qui agit présentement dans les prophètes. Puis c'est tous des faux prophètes. Quand le mensonge sort de la bouche d'un prophète, il est devenu un faux prophète. Miché dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Ça, c'est tous les anges puissants, des milliards. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Là, c'est rendu que Dieu voulait qu'Achab périsse. Ils répondent, les anges qui étaient là, ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'un autre. Là, il y a un esprit, verset 20, qui vient se présenter devant l'Éternel, puis il dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Là, on voit qu'il y avait vraiment un esprit qui parlait par la bouche des faux prophètes. C'était pas l'Esprit de Dieu. C'est un ange qui s'est apporté volontaire pour aller tromper. J'en connais juste un avec sa gang. C'est le diable. Parce qu'il est encore là, le diable, dans ce temps-là. Il n'avait pas encore été précipité du ciel. Il est encore là, dans ce temps-là, dans la présence de Dieu. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. C'est là qu'on voit comment est-ce que le diable il a la permission d'aller faire ses mauvais coups ou il est interdit de certaines affaires, comme dans l'histoire de Job, c'était la même affaire. Il avait le droit de faire telle chose, il n'avait pas le droit de faire d'autres choses. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Là, la vérité, c'est que le jugement était donné contre le peuple d'Israël, puis que Achab était pour mourir. Puis toutes les prophéties, même si tu auras 50 personnes qui te confirment, ainsi par l'Éternel, vas-y, tu vas l'avoir la victoire, même si tu en auras 50 qui te disent ça, ils ont tout l'air animés par un esprit. Quel esprit? Est-ce que la parole vient vraiment de Dieu? Est-ce qu'on doit toujours prendre comme du cash les prophéties qu'on entend des prophètes, puis le dire, c'est l'Éternel, puis sa volonté de l'Éternel, puis même si ça nous aboutirait à s'unir avec des fausses religions, quand la Bible nous dit, touche pas à ça, vas-y pas, informe-toi pas de leur Dieu ni de leur pratique, fuyez l'idolâtrie, il en parle tout le long de la Bible, de toutes les façons. C'est encore un sujet ça, qu'on parle aujourd'hui, qui peut avoir des gens animés d'esprit, qui prophétisent des choses, puis que c'est un esprit de mensonge pour essayer de t'amener à te séduire, puis de perdre la course, de perdre ta récompense. Il faut pas prendre toutes les prophéties comme de l'argent comptant. Comme qui dit, on prend toutes les prophéties comme du cash. Si c'est prophétisé, ça doit être vrai. Il y en a qui pensent de même. C'est prophétisé, ça doit être vrai. Le Saint-Esprit était sur lui, il a ouvert la bouche, puis là, il lui a dit des affaires, puis là, à cause de ça, il veut nous amener à aller vers d'autres dieux. Ben, j'en connais une femme que je connais, elle a abandonné, était prophète, puis rendue, retournée à l'Église catholique. Le pasteur de Granby me l'a conté lui-même, puis il me dit, elle était dans son église, cette femme-là, a prophétisé avec le don de prophétie dans l'église, puis est rendue cassère parmi les catholiques. C'est pas à cause qu'elle avait le don de prophétie que tout ce qui est sorti de sa bouche est inspiré de Dieu. C'est ça qui est le but qu'on doit comprendre. Puis présentement, l'ensemble des religions qui se tournent vers le pape, je sais pas si vous avez vu sur Facebook qu'est-ce qui se passe là, il y a toute une unification avec toutes les autres religions, les juifs, les orthodoxes, les musulmans, les bouddhas, peu importe la religion que tu as, sont tous en train de s'unir avec le pape présentement. Puis les chrétiens évangéliques, il y en a plein aussi qui sont en train de s'unir avec cette grande séduction mondiale qui est en train de se produire, de cet homme-là qui se fait passer pour Dieu sur la terre, puis que tout le monde adore. Nous devons examiner les prophéties. Dans le Nouveau Testament, ça le dit, ça nous l'explique dans les enseignements. Il faut examiner les prophéties, retenir celles qui sont bibliques et rejeter les fausses. Il faut développer notre discernement. La priorité, c'est pas la prophétie. La priorité, c'est l'enseignement biblique. Ce qui est écrit dans la parole. Garder sa parole, c'est la priorité. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, ça nous dit, n'éteignez pas l'esprit, méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, puis retenez ce qui est bon, puis abstenez-vous de toute espèce de mal. Voyez-vous, Dieu fait appel à notre discernement. T'entends des prophéties? Bravo. T'es mépriseras pas. Tu crois que l'Esprit de Dieu est là, puis il peut se révéler. Mais s'il y a plus que l'Esprit de Dieu, un autre esprit qui essaye de te prophétiser, d'aller vers d'autres dieux, ben là, tu dis, je regrette, ça, c'est pas de Dieu. Arrière de moi, Satan, on veut rien savoir. Tu es en train de nous parler de rébellion contre Dieu, puis tu es en train de nous vouloir nous sortir du chemin resserré qui mène à la vie. C'est ça que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Faut être capable de s'abstenir de toute espèce de mal en examinant les prophéties. Je ne méprise pas les prophéties, je crois aux prophéties, puis j'ai déjà eu à plusieurs reprises des personnes qui ont annoncé des messages pour moi, qui étaient pour ma vie, puis je reconnais que Dieu m'a parlé. Sauf que si j'en entends une qui me dit « Viens vers un faux Dieu, retourne à l'Église catholique, va dans les autres religions », Dieu me dit non dans sa parole. J'ai pas d'affaire à aller là, puis aucune alliance possible spirituellement qu'à part d'aller là puis de me faire souiller spirituellement par des démons qui sont dans ces cultes-là puis dans ces doctrines-là. J'ai pas besoin de vouloir connaître leur Dieu, ni leur fausseté qui est enseignée, ni leur culte comment est-ce que ça s'opère. Un prophète doit prophétiser selon la révélation de la parole de Dieu. Ce qui est annoncé dans la parole, c'est la vérité. Fait qu'un prophète de Dieu n'ira jamais plus loin que ce qui est écrit là. Il n'ira pas contraire à ce qui est écrit là. La parole de Dieu, c'est l'autorité suprême pour tous les chrétiens. Dans Romains 12, 6, ça nous dit cela. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Où est-ce que je prends les bases de la foi? C'est dans la parole de Dieu. Restons. T'as une fondation, là. T'as Jésus-Christ, la pierre angulaire. T'as la fondation, la parole de Dieu. Puis nous, on bâtit là-dessus. Restons sur la fondation. C'est quoi la fondation? C'est sa parole. Puis un dernier verset pour l'étude d'aujourd'hui. Le Seigneur avertit les anciens qui sont responsables des églises de ne pas laisser les prophéties égarer le troupeau de Dieu. Ceux qui sont anciens dans une église, c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est des anciens. Ils ont été reconnus avec les dons qu'ils ont. Puis ils forment un conseil dans l'Église. Ils sont là responsables de l'Église, responsables spirituellement. Quand Paul a dit à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » En faisant cela, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Fait que les responsables d'Église sont responsables de la vie des disciples. Mais dans l'Apocalypse, il y a un des passages dans l'Apocalypse au chapitre 2, le verset 20. Dieu parle aux responsables de cette église-là, puis il fait un reproche à ce pasteur-là qui est là. Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, ce que Dieu a contre lui, cet ouvrier-là qui est responsable de cette église-là, où ce que la lettre a été envoyée, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est qui ça, la femme Jézabel? C'est à la femme du roi Achab, le roi d'Israël, celui qui s'est éloigné de Dieu. Puis sa femme, qui est une femme étrangère du peuple d'Israël, elle avait fait rentrer 850 faux prophètes dans le peuple d'Israël pour faire pécher le peuple d'Israël. Jézabel représente, dans ce verset-là, parce qu'elle est morte ça longtemps, là, mais spirituellement, l'esprit de Jézabel travaille encore dans l'Église du Seigneur. Puis il fait quoi? La même chose qu'il faisait dans ce temps-là dans le peuple d'Israël. Il séduit le monde pour amener le monde à se débaucher dans la sexualité et de manger des viandes sacrifiées aux idoles, de communier avec les démons, les autres religions. Cet esprit-là agit dans l'Église du Seigneur, puis il dit, Dieu est en train de dire au pasteur de cette Église-là, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire dans ton Église, là, dans l'Église où tu es responsable, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez-vous, dans l'Église du Seigneur, Dieu a permis, puis Dieu ne veut pas que ce soit là, mais il a permis qu'un autre esprit, l'esprit de Jézabel, rentre dans l'Église du Seigneur, puis la responsabilité de s'en débarrasser est donnée à qui? Aux responsables de cette Église-là, de ne pas laisser faire ça. Si, comme là, aujourd'hui, je suis responsable de cette Église ici, je dois veiller à ce que l'esprit de Jézabel rentre pas dans l'Église. Qu'une personne, mettons, se dit prophète, puis elle prophétise, puis elle nous dit de manger des viandes sacrifiées aux idoles, puis de se livrer à l'impudicité, à la débauche sexuelle. Mais on ne laissera pas faire ça. Mais les pasteurs sont responsables de ça. Puis là, il dit dans les passages que ceux qui n'ont pas touché à ça, à l'esprit de Jézabel dans cette église-là, ils vont être épargnés, puis ils vont être bénis de Dieu. Puis ceux qui se sont livrés à ça, Dieu les a laissé du temps pour se repentir et puis d'arrêter leur perversion. Puis il leur a dit, un jugement va s'abattre sur leur famille, puis Dieu va faire le ménage, puis ils rentreront pas dans la vie éternelle. Ce que Dieu veut nous dire encore une fois aujourd'hui, ça fait partie de l'ensemble des autres enseignements qu'on a eus. Un chrétien ne doit pas se laisser séduire. Il est responsable de sa vie. Il doit veiller à ce que personne vole sa couronne. Il doit persévérer dans la foi, dans la sainte doctrine, puis pas se laisser entraîner par des rêveries, par des prophéties ou des choses qui l'amèneraient à servir les faux dieux. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous donnes, parce que ta parole est vérité. Ta parole nous enseigne le chemin à suivre. Seigneur, garde-nous et donne-nous de se garder de toute tentation, de tout piège qui pourrait être devant nos yeux pour essayer de nous faire tomber dans de se prostituer avec des faux dieux, avec des idoles de ce monde. Seigneur, garde-nous et garde-nous dans la foi, dans la vérité, à rester ancré en Jésus-Christ et en ta parole, puis donne-nous de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont pris au piège de ces choses, donne-leur la révélation afin qu'ils puissent se sortir de ces pièges-là et pouvoir avoir la victoire dans leur vie. Je te prie dans le nom de Jésus.